Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Droit, Le Devoir et La Tribune. Au programme, dire « je ». Sur le radar des priorités politiques canadiennes, protéger les milliers de fillettes de Granby, et si on parlait maintenant d'éducation? Bonne écoute.
Dire « je », une chronique de Melika Abdelmoumen parue le 12 décembre 2022 dans Le Droit. Toutes les citations de cette chronique viennent du discours de réception du prix Nobel Dany Ernault paru dans Le Monde du 7 décembre 2022. Dany Ernault, « J'écrirai pour venger ma race ». Dans le sillage de la remise du prix Nobel à Dany Ernault et du Goncourt à Brigitte Giroux, une persistante petite mélodie s'est mise à résonner de nouveau dans les médias, journaux et réseaux sociaux, d'ailleurs et d'ici. La mélodie en question, je ne la connais que trop bien pour l'avoir entendue tourner en boucle dans les mondes académiques et médiatiques pendant les années 1990 et au début des années 2000, alors que je consacrais une maîtrise à l'écriture autobiographique des femmes au 19e siècle, en particulier celle de George Sand, puis une thèse à l'autofiction et à Serge Dubrovski. Je parle de la mélodie selon laquelle toute écriture qui ose dire « je » serait nombriliste, narcissique et un symptôme du déclin de notre monde furieusement individualiste. Bref, depuis des décennies, je réfléchis à ce qu'on a appelé l'écriture de soi, les écritures du « je », les écritures autobiographiques, les écritures de l'intime, l'autofiction et plus récemment, les écritures du réel ou en anglais, la « non-fiction ». La première personne, celle par laquelle dans la plupart des langues nous existons, dès que nous savons parler jusqu'à la mort, est souvent considérée, dans son usage littéraire, comme narcissique dès lors qu'elle réfère à l'auteur, qu'il ne s'agit pas d'un « je » présenté comme fictif. Il est bon de rappeler que le « je », jusque-là privilège des nobles racontant des hauts faits d'armes dans des mémoires et, en France, une conquête démocratique du 18e siècle, l'affirmation de l'égalité des individus et du droit à être sujet de leur histoire. On aura remarqué que mes travaux portaient sur une femme qui voulait écrire et publier au 19e siècle et un Français de famille juive qui a été, enfant, forcé de se cacher et de porter l'étoile jaune pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'était pas calculé. Je suivais un élan, et c'est en découvrant le travail de la romancière et chercheuse québécoise Karine Rosseau que j'ai pris conscience du fait que l'autofiction et les écritures du « je » étaient parfois, souvent, un lieu d'expression, de témoignage, d'affirmation pour des franges de la société qui, autrement, n'auraient pas eu voix au chapitre. Le petit refrain dont je parle s'est donc remis à résonner depuis que des œuvres appartenant aux écritures du réel ont remporté tant le Nobel que le Goncourt et que le prix Wepler a été remporté par Anthony Passeren, qui raconte la vie d'un oncle disparu, anonyme, toxicomane de province parmi les premiers à avoir été atteint du sida, baigné dans le silence et le tabou et, avec d'autres comme lui, écarté par l'histoire. Ce qui rappelle un certain Hervé Guibert, premier auteur homosexuel à avoir documenté la progression de sa maladie dans des ouvrages aujourd'hui devenus des classiques. Plus près de nous, récemment, c'était Caroline Dawson qui remportait le prix littéraire des collégiens pour « Là où je me terre », ouvrage qui faisait découvrir ce que c'est que d'immigrer au Québec depuis le Chili et d'être la fille d'une mère qui, pour faire survivre les siens, doit être femme de ménage, puis de devenir transfuge de classe, universitaire, sociologue, écrivaine, à qui sourit un succès exceptionnel pour avoir raconté précisément cela. Ce qui rappelle deux autres auteurs, Édouard Louis et Didier Héribon, qui ont fait découvrir aux Français la grande pauvreté de certains de leurs concitoyens, dont plusieurs font aujourd'hui partie de la même classe qu'eux et tentent d'y trouver leur place, de survivre au sentiment de trahison et à la honte du transfuge. Il y a en France et partout dans le monde des intellectuels masculins, pour qui les livres écrits par les femmes n'existent tout simplement pas, ils ne les citent jamais. La reconnaissance de mon travail par l'Académie suédoise constitue un signal de justice et d'espérance pour toutes les écrivaines. Dans la mise au jour de l'indicible social, cette intériorisation des rapports de domination de classe et, ou de race, de sexe également, qui est ressentie seulement par ceux qui en sont l'objet, il y a la possibilité d'une émancipation individuelle, mais également collective. N'oublions pas Nelly Arcan ou Linda Dion, qui ont parlé de l'aliénation de la femme occidentale et de comment cette aliénation s'inscrit dans chaque fibre du corps, comment l'écriture peut non pas nous débarrasser de cette insupportable pression qui ressemble à une prison, mais du moins la dévoiler, la donner à lire comme un miroir. Ou Claire Legendre, professeure chercheuse et écrivaine dont l'ensemble de l'œuvre réfléchit précisément sur ce que c'est que de dire un « je » femme, tantôt exilé, esselé, abandonné, désirant, tantôt saisi par la peur de la maladie, une œuvre qui pense à ce que c'est que de nommer, d'inventer la limite entre vrai et faux, ce que c'est qu'engager sa voix propre dans une œuvre. Cet engagement comme mise en gage de moi-même dans l'écriture est soutenu par la croyance, devenue certitude, qu'un livre peut contribuer à changer la vie personnelle, à briser la solitude des choses subies et enfouies, à se penser différemment. Quand l'indicible vient au jour, c'est politique. Et il y en aurait tant d'autres. Les œuvres qui parlent avec justesse et force de notre monde existent sous plusieurs formes. Poèmes, essais, romans, théâtre. Et les écritures du « je » en font partie. Parfois, même, elles les réunissent tous. Suggestions de lecture. Brigitte Giraud, « Vivre vite ». Anthony Pashren, « Les enfants endormis ». Serge Dubrovski, « Le livre brisé ». Hervé Guibert, « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ». Didier Héribon, « Retour à Reims ». Édouard Louis, « Pour en finir avec Eddie Bellegueule ». Linda Dion, « Grosse ». Nelly Arcan, « Putain ». Karine Rousseau, « Mon ennemi Nelly ». Georges Sand, « Histoire de ma vie », Claire Legendre, « Bermude » et tous les ouvrages d'Annie Ernaux. C'était « Dire je », une chronique de Melika Abdelmoumen, parue le 12 décembre 2022 dans Le Droit.
Sur le radar des priorités politiques canadiennes. Un texte d'opinion de Jennifer Ditchburn, présidente de l'Institut de recherche en politique publique, IRPP, paru le 21 décembre 2022 dans Le Devoir. Avec du temps et des ressources limitées, le leadership implique une série de choix stratégiques. Sous la pluie de défis complexes qui s'abat sur le Canada, environnement géopolitique de plus en plus précaire, changement climatique, pénurie de main-d'œuvre, comment les gouvernements établissent-ils leurs priorités? Afin de leur prêter main-forte, l'Institut de recherche en politique publique a marqué son 50e anniversaire en demandant à 9 écoles de politique et d'administration publique quelles questions émergentes devraient être sur le radar des décideurs. Nos discussions ont identifié plusieurs constantes. érosion de la confiance du public et clivage grandissant. On entend souvent parler de polarisation, mais les Canadiens ne sont pas divisés en deux camps distincts. Il y a plutôt des tensions sur des questions précises et une méfiance croissante envers les gouvernements et les institutions. Ces clivages ne s'observent pas seulement dans le convoi de la liberté, mais aussi chez ceux qui s'estiment hors de portée des lieux de pouvoir et des opportunités, comme les personnes racisées ou les Autochtones, qui font face au racisme systémique dans l'accès à l'emploi, aux soins de santé et à de meilleurs salaires. Il peut aussi s'agir de rancœurs régionales. Les données recueillies par l'IRPP montrent, par exemple, que les Québécois ont l'impression que le reste du pays les regarde de haut. L'indice de ressentiment établi avec les données de notre sondage leur donne raison. Les habitants de la Saskatchewan et de l'Alberta estiment qu'ils contribuent plus que leur juste part à la Fédération et que le Québec n'en fait pas assez. Politique climatique résiliente et cohérente. Nous avons tenu des discussions sur la résilience face aux tempêtes, aux incendies, aux canicules et autres calamités. Les gouvernements doivent investir en pensant au long terme. Mais plusieurs ont souligné l'absence d'un plan cohérent pour atteindre des émissions nettes nulles qui reconnaîtraient les différences entre les régions et qui intégreraient plusieurs points de vue. Le Canada a des objectifs de réduction des émissions, mais ce que nous n'avons pas, ce sont les politiques techno-économiques qui vont nous aider à atteindre ces objectifs, a souligné Maggie Hanna, présidente de Common Ground Energy. Crise du logement. Lors du panel à l'Université Dalhousie sur les défis liés au logement en Nouvelle-Écosse, nous avons entendu des histoires stupéfiantes. Lisa Ryan, directrice générale de la South Shore Open Doors Association, a déclaré que son organisation avait enregistré 167 personnes sans-abri dans le comté de Lunenburg en septembre 2022, dont 63 enfants. Bien des gens se rendent donc à Halifax à la recherche d'un logement, mais se retrouvent à attendre longtemps pour trouver, en plus de subir la discrimination des propriétaires. Le logement est un enjeu politique crucial. Les dommages sur la santé et sur les perspectives économiques peuvent s'installer pour des générations et l'impossibilité pour les entreprises de loger les travailleurs a un impact sur la croissance. Défis dans la Fédération. La pandémie a beaucoup contribué à rapprocher les gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et autochtones. Ils ont été en mesure d'agir rapidement et de forger de nouvelles relations. Ils ont également fait preuve de créativité avec le déploiement rapide des soins de santé à distance. Mais il faut reconnaître les faiblesses de la Fédération. Programmes et règlements qui se chevauchent, accès inégal à la technologie et canaux de communication inefficaces. Alors que le pays s'efforce de créer un réseau électrique Est-Ouest, de résoudre les problèmes de main-d'œuvre et de chaîne d'approvisionnement et de réformer ses relations avec les Autochtones, il faut prêter attention à la santé et à la mécanique des relations intergouvernementales. Les gouvernements devront éviter les raccourcis réglementaires qui laissent souvent de côté la transparence, la cohérence et le respect des droits des Autochtones. La collaboration et la communication avec les communautés autochtones nécessiteront une compréhension plus approfondie des systèmes de gouvernance, notamment grâce aux femmes, aux jeunes et aux aînés, nos gardiens du savoir, dont nous commençons à reconnaître le rôle. Ces rôles nous ont été retirés sans notre consentement, a déclaré Danette Starblanket de la Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy. En parcourant le pays, on constate à quel point les défis se recoupent. La résilience climatique est intimement liée au logement, car les plus pauvres seront les plus exposés au risque de déplacement. La méfiance à l'égard des institutions s'accroît quand les structures de gouvernance lésinent sur la diversité de points de vue et la transparence. Un sous-investissement dans les gens et les technologies sur la voie de la réduction nette à zéro affectera notre capacité à financer certains pans de notre filet social. Ce qui est également apparu très clairement dans nos conversations, c'est la volonté des gens de partout au pays de faire front commun face à ces défis. Mais qui rassemblera les Canadiens autour de ces questions difficiles? Nous avons besoin d'une bonne gouvernance et d'un leadership fort. Les mécanismes dont disposent les différents ordres de gouvernement pour communiquer entre eux, avec les experts et avec le public, doivent être améliorés si nous voulons résoudre une myriade d'autres problèmes de politique publique. Il faut des dirigeants qui ont une vue d'ensemble de la façon dont les différents systèmes s'imbriquent et qui sont prêts à faire le travail de coulisses peu prestigieux qui nous permettra de relever les prochains défis qui apparaîtront sur le radar. C'était « Sur le radar des priorités politiques canadiennes », un texte d'opinion de Jennifer Ditchburn, paru le 21 décembre 2022 dans Le Devoir. Protéger les milliers de fillettes de Granby. Une version abrégée d'un texte de Laurence Ricard, paru initialement dans la revue Liberté, décembre 2022, numéro 337, et republié le 20 décembre 2022 dans Le Devoir. Chaque fois qu'on parle du drame de la fillette de Granby, mon corps se tend, mes muscles se raidissent. Toute personne qui a travaillé dans le domaine vous le dira. Son dossier n'avait rien de particulier. Il y en a des milliers au Québec des fillettes de Granby. Aujourd'hui, maintenant, sous vos yeux. Et vous refusez encore de les voir, comme vous refusez de voir leur famille, de peur de vous y reconnaître. On ne peut pas vraiment penser à ses enfants parce qu'on est incapable de penser l'enfance sans la romancer, l'épurer, la dénaturer. Parce qu'on est incapable de penser notre propre enfance. Quand j'essaie d'en parler avec des connaissances politisées, j'ai toujours l'impression que la protection de la jeunesse n'est pas vue comme un enjeu politique réel. S'il y a un problème, c'est la direction de la protection de la jeunesse. L'institution est la source du mal. Mes amis de gauche rejettent du revers de la main le système, le condamnent. Je comprends ce réflexe. L'État ne sait pas faire dans la dentelle, ni dans le relationnel. Il débarque avec ses gros sabots, cible ceux qui ne lui ressemblent pas, celles qui n'ont pas fait d'études, ceux qui en arrachent déjà. Il arrive avec son appareil bureaucratique étouffant et brasse les gens comme des cartes. L'État doit prendre des décisions. Il ne peut pas supporter l'ambiguïté, les nuances. Ses représentants en souffrent d'ailleurs aussi, écrasés par la responsabilité de faire des choix, de décider ce qui est insupportable et ce qui doit être fait devant l'insupportable. Le système de protection de la jeunesse est une institution comme les autres. Quand il fonde sa réponse sur un mauvais diagnostic de la réalité, il peut créer de la souffrance au lieu de la soulager. La DPJ en fait toujours trop ou pas assez. En se concentrant sur l'institution, on perd de vue le phénomène auquel elle tente de répondre. Je suis heurté par l'aveuglement dans lequel on s'enfouit quand on ne fait que critiquer la réponse sociale à la maltraitance des enfants. À en croire les discours ambiants, il suffirait presque d'éliminer l'institution pour éliminer le problème. La réalité pourtant, c'est que l'insupportable existe. Et son seuil varie selon les particularités de chaque individu. Je crois profondément qu'on a une responsabilité collective face à l'insupportable et qu'on doit apprendre à agir collectivement avec plus d'humilité. Je crois que notre incapacité à penser l'enfance repose sur trois raisons principales. D'abord, parce que nos loyautés et terreurs invisibles d'enfance nous travaillent toujours et qu'on préfère généralement faire comme si elles n'existaient pas. On ne peut pas penser notre début comme on ne peut pas penser notre fin. Ensuite, parce que l'enfance représente, au fond, notre plus grande peur. Tomber dans un état de dépendance quasi totale, animé principalement par nos émotions et notre désir de vivre, sans la capacité de raisonner pour nous distancier du ressenti, des pulsions et de l'imaginaire. Mais enfin, on a aussi du mal à penser l'enfance parce que les enfants, socialement, culturellement, c'est une affaire de femmes. Les femmes et les enfants, un bloc. Ils ont en commun la sentimentalité, le domestique, les pleurs, les choses basses, la faiblesse, la sphère privée et donc cachée. Pour apporter une réponse à la maltraitance des enfants, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un problème éminemment humain qui prend sa source dans une vulnérabilité que l'on a en commun. Cela demande aussi de reconnaître que l'être humain est imprévisible et qu'on ne fera toujours que de la gestion de risque. Nous aimons bien, à gauche, les explications structurelles et systémiques. En parallèle, cependant, dans les dernières décennies, il me semble qu'on a abandonné le projet d'inventer un modèle de service public plus humain en mettant plutôt notre énergie dans la critique du contrôle social de l'État, des effets punitifs des règles qu'il impose, des normes problématiques qu'il reconduit. Cette posture, dans une tension constante, nous enferme dans une logique binaire qui distingue, d'une part, l'individu, son espace de liberté et son droit à la vie privée, et, de l'autre, l'État qui tantôt étouffe cet individu, tantôt faillit à la tâche de le soutenir. Cette binarité nous mène trop souvent à détourner le regard d'une souffrance concrète qui génère une responsabilité sociale. L'enfant maltraité n'a non seulement pas les moyens de se comprendre comme faisant partie d'un phénomène plus large, mais il n'a souvent même pas les moyens de se comprendre lui-même comme individu souffrant. La question de la protection de la jeunesse s'assortit d'un impératif d'agir, là, maintenant. Les enfants, pour qui le temps passe plus lentement que pour les adultes, ne peuvent pas attendre la révolution. Le défi est de conjuguer la nécessaire approche curative et la prévention, dans laquelle l'individualisation des problèmes de maltraitance ne sera jamais une solution. C'était « Protéger les milliers de fillettes de Grimbé », une version abrégée d'un texte de Laurence Ricard, paru initialement dans la revue Liberté, décembre 2022, numéro 337, et republié le 20 décembre 2022 dans Le Devoir.
Et si on parlait maintenant d'éducation? Un texte d'opinion de Caroline Dupré, PDG de la Fédération des centres de services scolaires du Québec, paru le 15 décembre 2022 dans La Tribune. Dans son rapport publié le 7 décembre dernier, la vérificatrice générale identifie certaines lacunes observées lorsque, pratiquement du jour au lendemain, le réseau scolaire a dû suspendre ses activités d'enseignement puis basculer en enseignement à distance en raison de la pandémie mondiale de COVID-19. En outre, son rapport suscite des questions sur l'absence de données uniformes permettant au ministère de l'Éducation d'obtenir un portrait juste des éventuels retards d'apprentissage qu'a pu entraîner cette situation exceptionnelle. Si les observations de la vérificatrice générale sont nécessaires et méritent qu'on s'y attarde, j'estime qu'il est tout aussi important de mettre en lumière ce que la pandémie a révélé du réseau scolaire et de sa capacité d'adaptation. D'abord, il serait injuste de taire le fait que cette crise sanitaire était d'une ampleur inégalée et que le Québec, comme le reste de la société, s'est retrouvé devant cette situation inédite. Il n'existait aucun manuel d'instruction pour nous aider à répondre aux nombreux défis nouveaux et quotidiens engendrés par cette crise. Il nous a plutôt fallu les écrire et même souvent arracher des pages puis recommencer la rédaction. Plutôt que de baisser les bras, plutôt que de se laisser décourager par l'absence de repères, le réseau scolaire n'a pas hésité un instant à se mobiliser pour s'adapter, innover et trouver des solutions. Ce que j'ai vu durant ces années de pandémie, ce sont des personnes mobilisées, pleinement engagées pour la réussite des élèves, des personnes qui se sont serrées les coudes et ont travaillé sans relâche pour s'adapter et trouver des solutions novatrices à une situation en constante évolution, notamment pour rendre possible l'enseignement et les services de soutien et d'accompagnement à distance. De fait, lorsqu'il s'est avéré qu'il s'agissait de la seule voie de passage pour assurer certains apprentissages essentiels aux élèves, pour offrir un accompagnement professionnel à celles et ceux éprouvant des besoins particuliers et ensuite, pour permettre un retour en classe le plus normal possible, et ce, malgré plusieurs contraintes, il a fallu s'adapter à nouveau et en continu lors d'un retour en classe, parfois perturbée par des périodes de fermeture de classe et même de retour au confinement. Le déploiement de l'enseignement à distance a bien sûr bouleversé le quotidien des élèves et de leurs familles, ainsi que celui du personnel de l'éducation, mais il a aussi interpellé l'ensemble de la société, notamment les employeurs, qui ont dû faire preuve de compréhension et de souplesse. La pandémie a mis en lumière plus que jamais que l'éducation doit être une priorité, mais aussi une responsabilité partagée qui demande l'implication de toute la communauté. Même si ce fut éprouvant par moments, jamais il n'a été question d'abandonner les élèves ou de se dire qu'on allait réparer les pots cassés une fois la pandémie derrière nous. Au contraire, tant les gestionnaires et leurs équipes que le personnel assurant les services directs aux élèves sont restés concentrés sur leur mission et y ont investi temps, énergie, effort et créativité. Et c'est ce qu'ils continuent et continueront de faire au quotidien. Je crois que nous devons nous enorgueillir du fait que le Québec soit l'un des endroits où les élèves ont le moins manqué de jours de classe et reconnaître que cela a été rendu possible grâce à l'engagement et à la mobilisation de chacune et chacun. C'est pourquoi, maintenant que le plus difficile semble derrière nous, j'en appelle à cette même mobilisation et à cette même solidarité. Alors que l'année scolaire en cours se déroule dans une quasi-normalité, ce serait une grave erreur de mettre nos énergies à nous lancer des pierres. Soyons plutôt solidaires et collaborons à utiliser chaque pierre pour réaliser ensemble la plus belle des constructions qui soit, celle de notre société de demain. C'était « Et si on parlait maintenant d'éducation ?» un texte d'opinion de Caroline Dupré, paru le 15 décembre 2022 dans La Tribune.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Luc Mercure à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.